Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Livy, un médecin en quelques minutes.
Moi c'est Marc, j'ai 27 ans et j'habite à côté de Lyon. J'ai consulté un médecin sur Livy vendredi dernier vers 20h car j'avais des frissons, des courbatures et des maux de tête. À cette heure-ci, le cabinet auquel je me rends habituellement est pas ouvert, donc j'ai essayé Livy. Il s'agit de téléconsultation médicale directement sur son téléphone. J'ai attendu moins de 10 minutes et j'ai été agréablement surpris par la disponibilité et l'écoute du médecin. À la fin de la consultation, j'ai reçu une ordonnance avec le bon traitement et en quelques jours, ça allait mieux. Bah merci Livy.
Livy, un médecin en quelques minutes.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
C'est Esther dans vos oreilles, et aujourd'hui, je suis non pas avec une, mais bien avec deux personnes qui changent le monde à leur échelle. Khadija et Pauline.
Salut, moi c'est Pauline.
Salut, moi c'est Khadija.
Elles vivent dans le même quartier, entre la Goutte d'Or et la Chapelle, à Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des endroits de la capitale où la pauvreté est très visible. Il a abrité pendant plusieurs semaines, ou mois, années même, des campements de personnes exilées, en demande d'asile, réfugiées. Face à ce constat quotidien de la misère, elles ont décidé avec une petite équipe de lancer une association, l'Assiette Migrante. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la mission de l'association ?
La mission de l'association, elle est très simple, elle est de distribuer de la nourriture à des personnes qui ont faim dans la rue, majoritairement des demandeurs d'asile ou des exilés qui vivent dehors, qui sont en errance dans ces quartiers, mais aussi n'importe quelle personne qui a faim. Le projet de l'association, c'est de cuisiner ensemble. On est tous des citoyens solidaires, on se rencontre, on cuisine ensemble. Une centaine de repas ou 200, ça dépend des jours. Et ensuite, on va distribuer ces plats tous ensemble. Donc le moment de partage, il est dans la cuisine. C'est l'idée de participer à une action solidaire ensemble, mais aussi de se rencontrer autour d'une action et d'une cause commune. Donc on cuisine avec tout type de bénévoles. Les bénévoles peuvent être des bénéficiaires. Il y a des demandeurs d'asile qui cuisinent avec nous et qui en profitent aussi pour manger. Et il y a aussi, enfin, il y a tout type de personnes dans l'association. Et le moment de distribuer ces repas, la suite logique de la cuisine.
Est-ce que cette mission, pour vous, elle est politique ou pas ?
Alors, je pense que ça dépend vraiment des gens. Personnellement, elle n'est pas politique du tout à la base. Moi, j'ai voulu m'engager dans cette cause parce que j'habite, tu l'as dit, dans ce quartier et que tous les jours dans ma rue, je vois des centaines de migrants et qu'à force de passer, il y a un moment donné où en tout cas, moi, j'ai eu envie d'agir. Du coup, je me suis engagée dans cette cause, mais vraiment, la politique, c'était vraiment le côté humain qui m'a donné envie. Politiquement, je commence à m'y intéresser. Ça fait tout juste quelques mois que je m'y intéresse parce que je m'engage vraiment davantage dans cette cause. Au début, pas du tout. Et de toute façon, j'ai l'impression que même les politiques savent pas quoi faire et qu'on nous raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc, je me méfie beaucoup de ça. Et c'est pour ça que parfois, j'ai un peu de mal avec l'aspect politique.
Moi, je pense que la réponse, elle est différente en fonction de chacun, dans l'équipe déjà, et dans sa conception aussi du mot politique. Mais pour moi, c'est évident que cette action, elle est politique. À partir du moment où on décide en tant que citoyen d'agir à la place de l'État, en fait, parce qu'il y a un déficit de l'accueil. C'est pour ça qu'on se met dans cette position-là, d'accueillir et d'aider, mais c'est pas notre rôle en réalité. C'est pas notre responsabilité. Nous, on le fait parce que effectivement, c'est insupportable d'être témoin de ça. Et que pour moi, agir, du coup, devient politique, parce que c'est pour rappeler aux politiques, au gouvernement, à ceux qui ont ces responsabilités-là, qu'on est conscient qu'il y a un manque, qu'on comble absolument pas ce manque. Ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on le rend visible et on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce manque d'accueil et que les gens ne supportent pas, subissent par ricochet cette misère-là. Moi, j'ai habité dans ce quartier. J'habite plus le quartier, je voulais le préciser, mais j'ai habité dans ce quartier près de 10 ans. Et quand il y a eu l'arrivée des demandeurs d'asile, des migrants, déjà, c'est un quartier où il y a beaucoup de misère, mais c'est aussi un quartier qui est en pleine gentrification. Ajouté à ça la crise des migrants, ça devenait quasiment, pour moi, l'horreur tous les matins de faire mon trajet jusqu'au métro, d'emmener mon fils à la crèche, sans être témoin de scènes, mais horrible, quoi, de voir des gens se laver au jardin Éole le matin en plein hiver. Enfin, on peut pas laisser... Enfin, cette souffrance-là qu'ils vivent, elle nous touche aussi, et c'est pour ça que ça devient politique, dans le sens où on est obligé d'agir un petit peu à notre niveau pour combler un vide.
Ouais, mais alors du coup, je pense que c'est la différence qu'on met dans le mot politique, c'est on se rejoint vraiment sur cette vision. Moi, je dirais plus sociale et solidaire, parce que j'ai un peu une allergie au mot politique, mais finalement, on se rejoint.
Oui, on se rejoint. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la conception du mot politique.
Eh ben, ça tombe bien, parce que quelque part, ce podcast, il a pour but de montrer que la politique, ce n'est pas que le gouvernement et les députés, etc. Donc c'est hyper intéressant d'entendre que vous-même vous rejoignez là-dessus, sans mettre les mêmes mots dessus. Et je voudrais revenir un peu dans votre passé, à toutes les deux, et vous demander si vous vous souvenez quelles étaient vos premières indignations, même en tant qu'enfant, adolescente, les premiers trucs où vous vous êtes dit que c'était pas juste.
Moi, je me souviens d'un moment, alors c'est pas une indignation, c'est une sensibilité un peu face à une scène de vie. C'était chez moi, j'avais peut-être, chez mes parents, j'avais 6-7 ans, et il y a une jeune femme qui a sonné à la porte pour vendre des peintures parce qu'elle était à la rue, elle avait pas d'argent, Et ma mère l'a accueillie, lui a offert un café. Elles ont commencé à discuter et la jeune femme a pleuré parce que voilà, elle n'était pas bien. Et alors, c'est ma mère qui m'en a... Moi, je me souviens de cette scène, mais je ne me souviens pas exactement des détails. Mais apparemment, j'ai été tellement touchée que j'ai pris ma tirelire et je lui ai tout donné. Et je pense que c'est le premier contact que j'ai eu avec la précarité et voilà, une femme qui avait l'air comme tout le monde et qui vivait quelque chose qui me dépassait. Mais j'ai eu cette sensibilité, je pense, très vite. Et donc voilà, c'est une scène que je garde un peu en tête. Après, les indignations, c'est très global, mais j'aurais pas un sujet vraiment qui me touche particulièrement à part les migrants maintenant. Sinon, si on n'a pas fini de s'indigner, si on est un peu sensible.
Moi, pareil, je dirais que c'était, qu'il y en avait plein déjà dès l'enfance. Après, je ne saurais pas précisément mettre un souvenir clair. Moi, j'ai grandi à Paris une partie de mon enfance. Et puis à l'adolescence, j'ai déménagé en banlieue. Il y a peut-être ce contraste-là entre la vie parisienne. Même si quand je vivais à Paris, on était à 5 dans un studio de 10 mètres carrés, mais il y avait tout un confort en dehors de l'appartement que j'ai pas retrouvé ensuite quand on a déménagé en banlieue. Et je dirais le racisme, peut-être que ça a été mes premières indignations, c'était d'être confrontée au racisme. Et j'ai des souvenirs vraiment très forts, j'en ai pendant l'enfance, mais très fort, ça a été après le bac, parce que j'ai fait une prépa dans un lycée et je me souviens, j'étais en Hippocagne et mes profs de prépa pendant toute l'année m'appelaient avec un prénom à consonance arabe mais qui n'était pas le mien. C'était soit Malika, soit Fatima, et ils n'arrivaient pas à retenir le mien alors qu'on devait être peut-être deux nanas d'origine maghrébine dans la classe, quoi. Et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment fait mis en colère. Donc l'injustice en général, quoi. Enfin, l'injustice est particulièrement l'injustice liée au racisme.
ils étaient conscients de pas utiliser le bon prénom ou
j'ai pas la réponse. Parfois j'avais l'impression qu'ils étaient conscients. Parfois peut-être que certains c'était de la maladresse mais vraiment mal placée pour le coup, ou une flemme intellectuelle aussi de retenir un prénom qui correspond pas à ce qu'ils entendent d'habitude. Et je sentais aussi de la... C'est la première fois que j'ai eu un sentiment où celui de ne pas me sentir à ma place quelque part, alors que j'adorais la littérature, qu'à l'époque j'avais envie de grandes écoles, etc. Et moi, ça m'a fait vraiment fuir la prépa. Hein. Clairement, ça a très bien fonctionné, j'ai laissé tomber. Et ouais, ça vient de là. Et après, j'ai fait du droit, sentiment d'injustice qui m'a... l'envie de me battre contre les injustices, parce que peut-être qu'à ce moment-là, je ne me suis pas battue pour cette injustice-là qu'on m'appelle par mon prénom, tout simplement.
Et du coup, ça aurait provoqué ton envie d'agir sur d'autres injustices, même à travers ton métier, quoi.
Oui, oui, clairement.
Tu fais quoi comme métier en ce moment ?
Alors, en ce moment, mon métier, c'est un peu l'assiette migrante. Donc, je travaille pas en ce moment. Enfin, je travaille pour l'association bénévolement. Voilà, je suis en congé maternité, donc...
Avant l'assiette, tu as quand même eu un parcours un peu associatif, enfin, lié aux associations et aux...
Oui, alors, moi, j'ai vraiment le parcours atypique d'une fille qui n'a pas de réseau et qui se retrouve dans des chemins un peu perdus parce que je ne viens pas d'un milieu où faire des études est évident, où on m'a mal conseillé, où je n'ai pas fait peut-être les bons choix. Enfin, je suis passée, j'ai fait une hippocane, ça s'est mal passé pour les raisons dont j'ai parlé. Ensuite, j'ai fait du droit où je ne me suis pas sentie à ma place non plus. Et après, j'ai fait une filière artistique. Alors, j'ai fait vraiment ce qui me faisait kiffer, c'était une fac de ciné. Oui, ça s'est bien passé, je réalisais des petits cours, je me suis amusée, etc. Et puis après, j'ai dû bosser comme tout le monde, donc j'ai fait des boulots d'assistante, de direction dans différents domaines. Et un domaine qui m'a du coup vraiment rapprochée, qui a créé un déclic chez moi dans l'envie d'agir dans l'associatif, c'est que j'ai bossé pour la Fondation de France pendant plus de 2 ans, au programme Solidarité Migrants d'ailleurs. J'étais super heureuse d'intégrer ce job. Et c'était toute la partie financement d'associations qui agissaient sur le terrain. Et de lire tous les projets et de me rendre compte de toutes les actions associatives et de constater qu'il y avait plein de gens qui se bougeaient en France pour des causes, ça m'a vraiment donné envie de passer de l'autre côté.
Et toi, Pauline, est-ce que après ces premières indignations d'enfant, t'as un parcours classique de militante ou ça t'est tombé dessus parce que t'habitais ici et que tu l'as vu tous les jours ? Sachant que quand je dis parcours classique de militante, ça va être quelqu'un, par exemple, qui s'investit dès ses études ou même avant dans des associations, etc.
Alors moi, j'ai un demi-parcours de militante. En fait, j'ai fait des études d'économie et d'anglais. Et l'économie m'a amenée à vouloir bosser dans le développement économique, notamment des pays du tiers-monde. Donc j'ai pas mal bossé là-dessus, j'ai fait un mémoire dessus. J'ai fait un stage à l'ONU à Genève, pour justement dans la partie développement économique. Et j'ai fait un autre stage dans une association qui s'appelait Planète Urgence et qui envoyait des bénévoles faire des chantiers de 2 semaines, surtout des gens de l'entreprise qui, sur leur congé, pouvaient aller là-bas. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un peu dévié et j'avais toujours eu envie d'être journaliste. Donc voilà, j'allais un peu entre les deux. Sachant que l'économie, c'est quand même un domaine qui ouvre beaucoup l'esprit. Donc, pour le journalisme, c'est toujours bien. Et du coup, j'ai fait un DESS. Donc, maintenant, je ne sais pas si c'est un Master 2, je ne sais plus comment on dit. Ouais, DESS de journalisme économique. Donc là, j'ai un peu dérivé vers le journalisme par ce biais-là. Et puis, très vite, l'éco, ça m'a gonflé. Parce que parler des chiffres d'affaires de Renault, etc., ce n'est pas très épanouissant. Et donc, du coup... Comme j'aime beaucoup le sport et que j'en ai beaucoup fait, je me suis retrouvée journaliste sportive pendant 10 ans à Eurosport. Et puis après 10 ans, je suis partie, j'ai bossé un peu à droite à gauche et j'ai commencé j'ai trouvé un collectif qui faisait à manger aux migrants. C'est là où on s'est rencontrés avec Khadija et avec tous ceux avec qui on a monté l'asso. Mais à la base, on était dans un collectif. Donc, ce n'était pas du tout nous qui avions créé ça. C'était quelque chose qui existait depuis 4 ans. Et puis, ça s'est terminé parce que c'était dans un squat qui a été récupéré par Vinci pour en faire une maison de vie, des appartements et tout. Et du coup, le collectif a un peu... Voilà, ça s'est terminé comme ça. Et du coup, on a décidé, avec quelques personnes avec qui on avait créé un peu des affinités, on a décidé de créer notre asso. Et une semaine après, voilà, on se lançait dans le truc. Et voilà.
Enfin, ça me surprend que tu parles pas de ta mère, en fait, qui est une grande militante, qui va aux manifs, qui est très concernée par toutes les luttes sociales en général.
Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu génétique aussi. Ma mère est très, elle est très humaine avant tout. Donc c'est vrai que quand j'étais petite à la maison, j'avais des défilés de gens qui venaient au bureau des pleurs et elle consolait tout le monde et c'était voilà. Elle était d'abord vraiment humaine, encore une fois, un peu Mère Teresa comme on l'appelait. Et puis ça fait quelques années qu'elle devient militante. Alors politique entre guillemets, parce que pareil, la politique, je pense qu'on est un peu allergique de mère en fille, mais elle est au gilet jaune tout le temps, elle est à telle manif, parce qu'elle ne supporte plus en fait tout ce qui se passe et elle veut lutter, non pas pour elle, mais pour nous et pour ce qui va en rester. Et évidemment que ce que je fais moi via l'association, ça la touche énormément et d'ailleurs, elle nous soutient pas mal, ils sont venus à l'asso et c'est... De toute façon, tout ce qui est humain, j'ai l'impression que dans la famille, voilà, ça nous touche. Mais tu as raison, effectivement, je pense que j'ai été habituée très tôt à avoir cette sensibilité, cette ouverture, cette attention aux autres plutôt. Voilà. Et ça, je pense que ça vient de ma mère. Ouais.
Donc, vous m'avez parlé toutes les deux de comment vous aviez évolué en termes de pensée militante. À quel moment vous décidez de rejoindre ce collectif au départ ?
Moi j'ai commencé d'abord à suivre les actions de du collectif, c'était le collectif La Cuisine des Migrants, sur les réseaux sociaux. À l'époque je bossais à plein temps, jeune maman, et tout ce que je pouvais faire, enfin toutes les choses que j'avais l'impression de pouvoir faire, c'était de suivre les actions des autres sur les réseaux. Et donc je les soutenais à distance et je les enviais aussi, j'avais envie de participer. Et quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit le lendemain, je me suis inscrite pour aller cuisiner, et puis c'est devenu une addiction, mais vraiment quoi, parce que il s'est passé quelque chose de magique. Enfin, c'était particulier quand même. On se retrouvait genre une quinzaine de personnes qui se connaissent pas du tout le matin dans un squat plutôt glauque, et puis personne se parlait. On était là à découper, à cuisiner ensemble. Et puis, au moment d'éplucher les oignons, il se passait toujours quelque chose. Et
à 10h du matin, éplucher 50 kilos d'oignons,
tout le monde se mettait à pleurer. Je me souviens qu'il y avait des bonnes playlists musicales qui passaient. Ouais. Et ça créait des liens, la musique, les oignons. Et puis surtout, c'était beau de se retrouver tous des inconnus et d'avoir envie et de distribuer ensuite des repas dans des conditions... difficile, hein, parce que le collectif distribuait des repas tous les jours, 5 jours sur 7, excepté les week-ends, mais c'était 300 repas par jour. Il y avait énormément de monde, de bénéficiaires, il y avait la queue, parfois il y avait souvent pas assez à manger, et c'était très physique, très, très violent aussi. Et du coup, on se sentait...
Pourquoi violent ?
Violent parce que les gens faisaient la queue pour manger, qu'ils mangeaient par terre. Enfin, c'était ce que je ressentais au début. En tout cas, les premières fois, oui, c'est assez déstabilisant déjà de voir des gens manger par terre, de les voir se bousculer pour avoir une barquette. Enfin, on était nombreux en plus, mais c'était bizarre. Et en même temps, à chaque fois que j'ai participé, j'ai eu envie de revenir et j'ai eu envie... à chaque fois, je me posais des questions nouvelles. Et j'avais un regard nouveau sur ces distributions-là. voilà. En tout cas, ça a ouvert quelque chose chez moi.
Alors moi, c'est complètement absurde comment j'ai découvert ce collectif. C'est un été, il y a eu une tempête, des inondations énormes. Toute la rue était inondée. Et je ne sais pas pourquoi, je vais sur Twitter et je tape le nom de ma rue, plus inondation, pour voir s'il y avait des gens qui mettaient des photos, parce que j'aime bien regarder. Et là, je tombe sur un tweet qui n'a rien à voir, mais qui parle de ce collectif. Et du coup, comme pareil, j'étais un peu sensibilisée par ça, vu l'endroit où j'habite, j'ai regardé un peu le site et j'ai vu qu'on pouvait y aller. Et je pense que, ouais, pareil, la semaine d'après, je me suis inscrite et j'y suis allée. Et voilà, c'est un peu ce que dit Kadish, c'est que t'arrives à 10h du mat, dans un vieux squat, tu retrouves des gens que tu connais un peu. Ça tourne, donc parfois, tu sais pas quel casting tu vas avoir. Donc, t'arrives à 10h et t'as des gens avec qui t'as pas vraiment d'affinité ou tu connais pas. Et l'ambiance prend pas, mais bon, après, de toute façon, tu fais pas ça pour ça. Mais il y a d'autres jours où tu retrouves un tel, tu papotes, il y a de la musique. De toute façon, c'est comme tout, c'est comme les soirées, c'est qu'il y a des moments où ça se passe bien et d'autres où, bon, c'est moins sympa. Mais voilà, c'est une cause qui nous dépasse un peu. Et comme Khadija, ouais, il y avait un truc où, même les jours où, bon, ça avait pas été génial, t'y retournes. Et moi qui suis pas du matin, hein, voilà, je suis pas du tout du matin.
Tu venais très souvent.
me lever pour autre chose que pour moi, ça me stimulait. Il y avait quelque chose où tu te poses pas de questions en fait. T'y vas. Voilà, en tout cas moi ça m'a motivée pour y aller. Et puis voilà.
Et puis aussi c'était un endroit très militant politiquement. Enfin, il y avait des vrais débats. Il y avait des vrais partis pris, chacun pouvait s'exprimer aussi. Moi, ça a été nouveau pour moi de découvrir un lieu où la parole était libre. Il y avait des militants, pas que, mais du coup, de rentrer dans ce monde-là un petit peu, c'était hyper enrichissant aussi intellectuellement.
Oui, parce qu'on avait beaucoup de réfugiés aussi. On avait des Afghans, on avait des Tchadiens, on avait beaucoup de nationalités. Et c'est qui racontaient un peu leur parcours, ou pas d'ailleurs. Ça t'ouvre un peu l'esprit et ça te change de tes habitudes, ça sort de ton confort. Et donc forcément, tu te poses d'autres questions que tu t'étais pas posées avant dans ta routine quotidienne, quoi.
Quand ce collectif il a fermé à cause de la fermeture du squat, vous vous êtes dit immédiatement « Ok, on recommence ?»
Oui. Ouais, quasi. En fait, on voulait continuer à faire vivre le collectif. Ça a été assez compliqué. Donc, quand on a compris que le collectif n'allait pas survivre à l'expulsion, on s'est dit bah, il faut qu'on continue. Et on était, je crois, 5-6 à se dire... je me souviens, on s'était vu genre un vendredi soir et lundi, on avait fait la réunion pour constituer l'asso. J'avais planché tout le week-end sur les statues et c'est allé très vite après. Et on était tellement contents de recommencer à cuisiner et la première distrib, c'était un soulagement pour nous. Enfin, c'était notre... On avait besoin de continuer et ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça.
Y a une question qui s'est posée à la base, c'est est-ce que... on monte notre asso ou est-ce qu'on rejoint d'autres collectifs ? Parce qu'il y en a plein qui ont besoin de gens et du coup, on ne savait pas trop quoi faire. Monter une asso, moi perso, je n'avais jamais fait. Enfin, personne ne l'avait fait. Toi, Khadija, tu connaissais un petit peu les rouages administratifs. Mais voilà, c'est la seule question qu'on s'est posée. Et puis, je pense qu'une demi-heure après, on s'est dit, bah non, on va monter notre truc. Et une semaine après, on avait notre nom, notre cagnotte, notre Facebook, le bureau, l'Assemblée Générale, et puis c'était parti. Et ce qui est marrant, c'est que notre bureau, il est constitué de gens donc, qu'on avait tous vus, qu'on avait tous croisés à la cuisine, qu'on aimait bien. On savait qu'on a, on avait une espèce de socle commun où passer une soirée ensemble, c'était agréable. Mais finalement, là, on se connaît plus que bien. Maintenant, c'est vraiment une famille. Mais à la base, on ne savait pas trop qui était... Enfin, on se découvre vraiment dans ce... On ne s'est pas trompé,
c'était
d'ailleurs.
C'était vraiment parce un engagement que... sur des envies communes, voilà. Des valeurs communes et une façon de voir l'action commune. C'était ça. Et puis,
on s'appréciait, évidemment. Ouais. Hein, mais on ne se connaissait pas.
Il y avait une distance qui n'existe plus
après,
aujourd'hui.
Les apéros nous ont rapprochés, les oignons aussi.
Mais c'est vrai qu'il y a eu un projet commun qui s'est dessiné très vite en discutant. Et puis, je pense que moi, par exemple, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Si je ne me trompe pas, toi non plus. Les autres non plus. Ouais, ouais. Et c'était vraiment l'idée de s'engager... tous en commun pour cette action-là, vraiment la force d'être ensemble qui nous a poussés à le faire.
Et au départ de votre action, vous n'avez pas eu de difficultés, c'était un peu instinctif pour vous, la manière d'agir, comment récolter des denrées alimentaires à cuisiner, par exemple, comment effectuer une distribution, parce que j'imagine que quelqu'un qui débarque, en fait, c'est pas si simple. Tu disais tout à l'heure, ça peut être violent. Donc je me demandais si ça avait été très naturel pour vous, ou si peut-être vous vous êtes fait aiguiller un peu par d'autres gens aussi. Il y a un tissu associatif qui est assez dense sur cette cause-là à Paris. Donc
En fait, nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on connaît le quartier, on connaît le terrain, et ça faisait plus d'un an qu'on œuvrait dans ce sens. Comme tu dis, le réseau associatif, il est assez dense dans le 18e, et notamment à la Goutte d'Or. Et du coup, par des rencontres, très vite, on nous a proposé des cuisines, parce que finalement, la base du problème, c'est d'avoir une cuisine pour cuisiner. Le squat étant fermé, il fallait qu'on trouve un endroit. On en a trouvé un premier, et puis on en a trouvé un deuxième par Saïbo, qui fait partie de notre bureau. Et là, on est accueillis dans une cuisine à l'accueil Goutte d'Or, deux fois par semaine. Donc, très vite, en fait, effectivement, on a réussi à avoir un lieu, donc avec tout le matériel possible. Et puis, les courses, on a lancé une cagnotte qui a un peu pris au début, donc qui nous a permis de commencer les distribs. Et après, on en reparlera, mais on a été invité à un gros festival qui s'appelle le Festival du BAM, pour faire des repas pour ce festival, et on a réussi à gagner pas mal d'argent qu'on a tout reversé pour la cagnotte. Et de là est parti un système d'autofinancement où des particuliers, des entreprises, des associations maintenant nous demandent des buffets solidaires, donc on le fait à des tarifs vraiment modiques, mais on reverse tout à l'asso, et du coup on arrive à se financer pour les distribs, pour acheter, pour voilà. Donc pour l'instant ça roule. C'est comme ça qu'on trouve un peu notre équilibre.
Après, pour la plupart, on avait déjà une expérience de plusieurs mois, pour certains des années, de distribution alimentaire dans le quartier. Donc, on avait déjà cette expérience-là. Donc, on savait comment gérer, même de manière... Enfin, on avait les bons réflexes, ramasser les déchets, faire une file, vous savez, organiser une distribution en sécurité pour ceux qui distribuent et pour ceux qui viennent manger. Donc, on avait déjà toute cette expérience-là. Le plus difficile, ça a été de matériellement de se mettre en place. Et puis, au départ, il faut le dire, on a mis chacun un petit peu d'argent pour pouvoir commencer à faire nos premières distribs. Et puis ça a continué. Enfin, c'est la chaîne de l'espoir, quoi. Une personne se rajoute. Et puis, à partir du moment où on a eu des assos qui nous ont accueillis pour cuisiner, c'était bon. Ouais. Parce qu'on avait quelque part où se retrouver. Il y a des moments où on a cuisiné chez moi, d'autres chez toi. Et c'est vrai que si on avait continué comme ça à cuisiner dans des endroits qui n'étaient pas faits pour, et sans ce côté se retrouver, pas que les membres de l'asso, mais aussi...
Oui, un lieu commun à tous.
Les réfugiés aussi qui cuisinent avec nous, le fait de les retrouver dans un lieu qui était fait pour, ça a permis vraiment à l'action de continuer, et nous aussi de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut juste faire de la distribution alimentaire? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Comment se positionner? On a commencé à se poser des questions qu'en tant que simple citoyen allant dans un collectif, on ne se posait pas. Là, d'un seul coup, la question du discours, du regard, de ce qu'on avait envie de dire se posait, et on s'est construit un petit peu au fil de l'expérience, quoi.
Ouais, c'est vrai que de bénévole d'un collectif, tu passes à responsable d'une asso, donc forcément, tu as un positionnement à avoir qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas qu'on ne l'a pas trouvé, mais pour l'instant, on n'est pas non plus encore dans une revendication très claire. On a les valeurs qu'on a communes, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le temps de se positionner politiquement, ou voilà, c'est en construction.
Moi, je suis pas d'accord, parce que on a dû se confronter à des trucs. Si on était à la cuisine des migrants, on ne serait pas posé la question.
Oui, bien sûr.
Mais
oui, oui.
Les contrôles policiers, le choix de changer de lieu de distribution,
selon les évacuations,
la communication avec les élus, essayer de rentrer en contact avec la mairie, parce que quand on s'est fait taper sur les doigts par des habitants ou par la police de manière complètement injuste, il a fallu que ce discours qu'on n'avait peut-être pas au début, il a fallu qu'à un moment donné, on l'assume et qu'on assume notre cause et l'aspect politique de notre action, et notamment dans le quartier dans lequel on est en pleine gentrification. Et c'était pas facile, parce qu'il y a eu même un débat entre nous, des désaccords, mais il a fallu à un moment donné, on a dû le faire. Si on avait été encore dans un collectif,
est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi, à quelles difficultés vous avez dû faire face? Tu l'as mentionné rapidement comme ça, mais je pense que quand on n'a pas participé et pas vécu ça, c'est difficile de visualiser. Donc peut-être vous pouvez détailler un peu.
Alors on s'est rendu compte très vite, et c'était la première distribution. Que ce qu'on faisait, je sais pas comment le dire, mais faisait pas l'unanimité, ça se dit comme
l'unanimité,
parce que dans le quartier, par exemple, on avait jamais eu, moi en tout cas quand j'étais au collectif, j'avais pas ce sentiment de gêner ou de déranger d'autres personnes. Et donc, première distribution, on a tout de suite eu des messages de personnes qui étaient gênées par la distribution dans leur quartier. Et donc, au début, on s'excuse, on essaye de trouver un terrain d'entente, on essaye de se comprendre, on change d'endroit de distribution pour gêner le moins possible, on essaye d'en trouver un qui ne gêne pas les habitants, qui fasse l'unanimité.
L'unanimité.
je suis un peu dyslexique. Et du coup, au début, voilà, on est dans ce positionnement de toujours de pas gêner. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que on a beau changer de place, et il y aura toujours soit la police, soit des habitants mécontents, soit pas assez de bénéficiaires parce qu'à force de tourner en rond, ils ne nous trouvent pas. Donc à un moment donné, on a choisi un point, on s'est dit on reste là, et puis basta, on sait qu'on ne gêne pas, qu'on ramasse derrière les déchets, qu'on respecte la charte de distribution alimentaire de la mairie de Paris, qui nous a invités à une réunion un peu pour nous mettre dans les clous. C'est pas évident, en fait. Il faut s'accrocher, parce que c'est vrai que première fois, t'as un habitant très virulent qui nous harcèle de messages. Ensuite,
nous envoie par Facebook la photo de... Alors, il y a eu la photo de... Quand tu déclares ton association, il avait pris en photo...
Nos statuts,
nous les avons envoyés, ouais. Donc ils savaient exactement qui on était. Et très vite, dans les premières distribus aussi, je suis allée voir sur Twitter, parce que c'est ma passion, hein. j'ai tapé l'assiette migrante, je sais pas quoi, et je trouve des photos de nous prises sous le manteau, dans la rue ou par des fenêtres des habitants, où on nous voit distribuer. Et alors là, je t'épargne un peu le discours, mais c'est complètement absurde.
Mais c'est vrai que c'est décourageant, parce que nous, on a l'impression de faire... On sait qu'on fait quelque chose de bien, c'est pas juste on a l'impression, et on sait qu'on le fait avec le plus de précautions possible, et qu'à un moment donné, la seule façon de pas se faire embêter, et c'est d'assumer que certains sont pas contents, et de dire on est dans toute l'égalité, nos statuts sont déposés, on a le droit de faire des distributions alimentaires dans la rue, il n'y a pas d'arrêté qui l'interdit, donc on continue.
Ok, j'avais deux trucs à relever. La première chose, c'était vos rapports avec la police, justement, dans le sens où effectivement ça pouvait laisser entendre que c'était illégal. Là, tu viens d'expliquer que ça l'est pas.
Non.
Donc ça, je veux bien détailler. Et le deuxième truc, c'est effectivement comment gérer ce sentiment de découragement et ne pas jeter l'éponge.
C'est d'oser y retourner, en fait. C'est la première... Moi, j'ai jamais été contrôlée par la police de toute ma vie. Et la première fois qu'on a pris mon passeport, j'ai eu un peu peur. Et puis après, il y a les tripes qui prennent le dessus et le sentiment d'injustice de se dire... Mais c'est quand même n'importe quoi. Et là, de relever la tête, de ne pas se laisser faire, de rappeler aux policiers en question que ce qu'on fait est tout à fait légal, que d'autant plus que nous, on est une association, on essaye vraiment, au départ, on avait vraiment ce besoin de faire les choses dans le dialogue. Donc on est en contact avec l'UEASA depuis le début. On essaye d'être en contact.
L'UEASA, c'est
l'unité d'aide aux sans-abri, avec la mairie aussi. Donc on a toujours essayé d'être dans le dialogue, et là de se retrouver traités comme des délinquants, c'était un peu bizarre. Donc on écrit. Enfin, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit, je vais pas me laisser faire, et je vais écrire aux personnes concernées. On a même pensé à essayer de rendre médiatique un peu notre souci, consulter les autres assos, se rapprocher des autres associations qui subissaient exactement la même chose que nous, et pas se laisser faire, quoi. Et pas se laisser impressionner, c'est-à-dire.
Ouais. Après, il y avait deux choses. C'est qu'à la fois, évidemment, on était, comme dit Khadija, on était dans notre bon droit, on était en toute légalité. Il y avait quand même un point d'interrogation, c'est que ces derniers mois, il y a eu tellement de changements, il y a eu tellement de politiques qui essayaient de se mettre en place, mais qui n'ont pas été mises en place. Donc, même les autres assos, personne ne savait plus à la fin ce qui était légal, pas légal. Enfin, c'était pas très clair. Et du coup, quand on a les flics qui viennent nous voir, eh ben, eux, ils ont une version, mais ils sont peut-être en toute bonne foi en nous disant « non, c'est pas légal ce que vous faites, parce que... » Et nous, on a l'impression d'être en toute bonne foi. Donc, on ne sait pas s'ils nous mentent ou si ils sont dans leur réalité.
On finit par découvrir que si.
Mais sur le coup, c'est là où il faut se positionner, mais à la fois, tu t'essayes vraiment de leur tenir tête en te disant mais peut-être que finalement, ils ont raison dans ce qu'ils disent, parce que personne ne sait ce qu'il en est, finalement.
Et puis, comme on débute dans l'action...
Mais ils vous mentent ? Un mensonge éhonté, quoi. On sait qu'on est en train de pas dire la vérité.
Je vais donner un exemple.
Ils surfent sur le flou,
disons. Je vais donner un exemple très concret et qui ne concerne pas que notre asso. Plusieurs associations ont été contrôlées par la police. Déjà, contrôlées de quoi ? C'est un peu bizarre. En leur demandant une autorisation pour la distribution. Cette autorisation n'existe pas. Quand on contacte la mairie, elle n'a pas d'informations, et la préfecture non plus. Donc, si tu veux, c'est un peu... c'est une autorisation officieuse d'être sur des endroits, sur un territoire et pas un autre. C'est-à-dire que si on va distribuer... dans une certaine zone aux portes de Paris, loin des quartiers en pleine gentrification, il n'y a pas de problème. Mais si on distribue dans un quartier où il y a un vrai enjeu de gentrification économique, clairement, ça pose problème. Après, nous, quand on distribue à la chapelle, tout ce qui s'est passé a fait qu'on a changé de point de distribution au final et qu'on s'est rapproché des campements et des portes de Paris parce que pour plein de raisons différentes, mais on distribue à la chapelle. À l'origine, ces problèmes, on les a rencontrés quand on distribue à la chapelle parce qu'il y a vraiment, c'est un point de rencontre des demandeurs d'asile, des migrants dans la journée, et que c'était un endroit où ils étaient. On avait l'impression que la distribution pouvait être un peu plus agréable qu'à proximité d'un périph ou d'un campement. Et c'était aussi une question de les rendre visibles aussi dans ce quartier.
Quand on distribue à la chapelle et qu'on se fait un peu emmerder par les flics, tout ça, nous, on appelle derrière les gens concernés à la mairie ou dans des organismes, et les gens nous disent « Oui, effectivement, ça embête un peu que ce soit ici. » Maintenant, ça n'est pas illégal, donc faites ce que vous voulez. Mais on nous précise quand même que c'est pas génial d'être là-bas, mais ils peuvent rien faire, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'illégalité. Donc voilà, c'est vraiment, il faut savoir s'adapter et peser le pour et le contre. Et finalement, le fait effectivement d'avoir été entre guillemets délogé, parce que finalement on l'a choisi, de la chapelle, ça nous a amené vers les campements, et ce qui est pas plus mal. D'ailleurs, c'est une décision qui a été finalement, on s'est pas posé la question longtemps, et maintenant qu'on est sur les campements et les portes, on le regrette pas du tout. Enfin, on est très très utile là-bas, et c'est...
C'est ce que j'allais demander. Vous avez bougé suite aux évacuations des camps de la chapelle ?
Alors, on a bougé un peu avant, déjà parce que on faut le dire, dès qu'on allait à la chapelle, on se demandait si on allait se faire contrôler. On a des gens avec nous, des réfugiés, qui n'ont pas forcément envie d'avoir affaire à la police, même s'ils sont légaux. Ça leur rappelle pas des souvenirs merveilleux. Donc, même pour eux, ça nous embêtait, et même pour nous. Et puis, il y a eu en même temps...
on avait décidé de faire le test d'aller à Porte d'Aubervilliers et ça a bien... Il y avait beaucoup de monde, les repas sont partis très vite et on s'est senti hyper utile à Porte d'Aubervilliers. On avait dit, et on a continué en fait.
C'est ça, c'est qu'aussi à La Chapelle, comme disait Khadija, c'est un point de rencontre. Mais pour moi, les gens, les réfugiés qui sont là-bas sont des gens qui se démerdent, sont des gens qui savent où il y a à manger, qui ont une vie sociale entre guillemets entre eux, qui ne sont pas seuls. Alors qu'aux portes, les gens habitent sous des tentes, il y a des familles, ils sont paumés, ils n'ont pas à manger. Et donc on s'est dit, ok, on a envie de rester dans Paris parce qu'on ne veut pas les rendre invisibles, mais en même temps, il ne faut pas se tromper de combat non plus. Il faut qu'on arrive aussi à parfois mettre de côté nos idéaux et être plus pragmatique. Et c'est vrai qu'on se rend compte que vraiment, aux portes, voilà, les gens sont vraiment plus démunis.
Avec cette volonté de faire les deux, du coup, on s'était dit, le dimanche, on fait des distributions massives le plus qu'on peut à Porte d'Aubervilliers. Maintenant, Porte de la Villette, parce qu'il y a eu un nouveau campement. Et à La Chapelle, on avait envie de rester symboliquement sur juste des distributions de thé et de café gâteaux fait maison, pour l'aspect regard, en fait.
Ok, donc ça, c'était mon premier point par rapport à la police. Le deuxième, suite au découragement, comment vous repartez au combat à chaque fois comme si de rien n'était, presque.
Pour ma part, je pense que c'est un sentiment de colère et d'injustice qui est renforcé par ça. Et de se dire, mais on a l'impression qu'on vend de la drogue à des enfants alors qu'on fait juste nourrir des gens qui ont faim. Et en fait, ce truc, pour moi, c'est absurde. Et en fait, cette absurdité, elle me donne la force de me battre parce que c'est pas normal. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Alors Khadija, tu me diras toi, mais voilà, on a tous cette volonté de se dire, mais restons humains. Et du coup, je pense que cette force collective, elle permet de pas se décourager. Parce qu'évidemment, si t'es toute seule ou si t'es à deux et que t'as affaire une fois sur trois aux policiers, à un moment donné, tu peux jeter l'éponge. Mais quand t'es 20, quand parmi ces 20 personnes, t'en as 5 qui ont vécu des choses atroces parce qu'elles sont venues de Libye, du Tchad, et que ce sont devenus tes amis, à un moment donné, t'as vraiment, voilà, t'as toute cette force qui se dégage et qui te pousse. Et je pense que tu te poses même pas la question, on en revient à ce truc-là, c'est que soit ce combat, tu le portes un peu instinctivement, et soit tu l'as pas du tout, mais je pense que nous, on l'a, et que passer la colère et le découragement qui va durer une soirée parce qu'on en a marre, c'est reparti le lendemain.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ce sentiment d'injustice. Enfin, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, ces gens-là, on ne les accueille pas. T'as des citoyens qui font ça sur leur temps et qui pallient un peu au manque de l'accueil parce qu'ils ne supportent pas la situation. En plus, derrière, on les embête. Donc là, c'est vraiment l'indignation de trop et qui nous donne encore plus envie c'est vrai que la soirée on déprime et puis le lendemain on s'écrit et on se dit ah non mais il faut qu'on y retourne et on s'organisera mieux, il faut écrire à telle personne, on va pas se laisser faire et on continue.
Ça va être quoi la prochaine étape pour l'association du coup?
En fait, là j'ai l'impression qu'on s'est bien installé sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on sait faire côté distribution. Et je crois que la prochaine étape, elle est en train de se construire, c'est plutôt de se mettre en commun avec les autres associations qu'on fait déjà depuis le début, mais ça commence à être un peu plus construit pour agir ensemble et puis dépasser. On essaye de construire des projets plus sur long terme autour de l'inclusion, pas qu'autour de la distribution alimentaire, mais on est en train de les construire, c'est pas évident. On n'a même pas un an, on a créé l'asso au mois d'avril, donc au mois d'avril 2019, on est en décembre. Ça avance tout doucement, on s'installe.
Ouais, et puis surtout, à très court terme, on aimerait développer des activités pour faire des choses ensemble. Donc, et c'est là où on pourrait marcher avec les associations. Les autres assos, c'est que nous, on a des amis réfugiés qui ont des amis réfugiés. on a des associations qui connaissent aussi des réfugiés, évidemment, et peut-être organiser des ateliers d'écriture, organiser, je ne sais pas, une virée à la mer, comme le font déjà le collectif Wilson, ils font pas mal de choses comme ça pendant les vacances. Et voilà, nous, c'est un peu notre prochain objectif. Là, comme dit Khadija, on s'est installé. Financièrement, ça commence à bien rouler avec les buffets qu'on fait. Donc, on peut avoir un peu plus d'argent pour voir les choses un peu plus grand et ne pas faire que des distributions alimentaires. Mais voilà, ça prend du temps parce que, mine de rien, deux distributions par semaine, ça paraît pas beaucoup, mais il faut organiser les courses, il faut appeler les bénévoles, il faut... Voilà, il y a plein de choses. Les buffets, n'en parlons pas, ça prend encore plus de temps. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit qu'il faut qu'on développe ça, mais que le quotidien nous rattrape. Et voilà. Mais je pense que ça viendra et qu'en 9 mois, on a réussi effectivement à bien s'installer.
Notre particularité, c'est qu'on s'autofinance. Donc, on travaille bénévolement et gratuitement à fournir des buffets pour des prestations pour enflouer les caisses de l'asso. Donc ça, c'est énormément de boulot et ce qui nous permet d'offrir des plats de qualité. Et puis, je pense que notre rêve ultime, ça serait d'avoir un local et c'est ce dont on rêve depuis le début, mais ça se fera pas tout de suite et on en est conscient. C'est d'avoir un sorte de point de chute, de point d'accueil, un sorte de café social pour toutes ces personnes qui se retrouvent dehors, qui ont envie un peu de se réchauffer à cause de la pluie, que ces gens mangent assis à une table et qu'ils puissent se laver les mains avant et après dans des toilettes et pas qu'ils mangent avec leurs mains sales par terre. Ça serait notre rêve, mais on sait que le chemin est très long et l'autofinancement, c'est pas évident. Enfin, on progresse, on essaye.
Mais pour vous deux, si je comprends bien, vous êtes quasiment dans des périodes de transition et quasiment à plein temps sur ce projet-là. Est-ce que vous envisagez d'en faire votre activité pro ?
Bah, carrément. On aimerait bien, mais c'est compliqué.
On est sur le dossier hein, depuis quelques semaines. On avait du coup un projet avec les buffets. On s'était dit que, comme c'est vrai que les buffets en général sont en semaine, toutes les deux on est au chômage. On a des amis qui sont retraités, donc ils peuvent nous aider, mais la majorité des bénévoles travaillent. Donc, c'est vrai que les buffets, en général, on les assume un peu toutes les deux avec deux, trois bénévoles. Et du coup, comme ça marche plutôt bien et qu'on en refuse parce qu'on n'a pas le temps d'en faire autant, on s'est dit qu'à un moment donné, ça pourrait être bien de se salarier là-dedans. Et pour après, engager nos amis réfugiés qui nous aideraient à faire la cuisine, nous payer et reverser aussi un peu d'argent à l'asso. Comme ça, tout le monde y gagnerait. Donc, on a commencé à réfléchir à ça. On a peut-être d'autres projets en tête qui avancent tranquillement. Mais effectivement, oui, moi, il y a un an, je ne m'imaginais absolument pas monter ma boîte solidaire, être vice-présidente, pardon, c'est Khadija la présidente. Éplucher des patates et en vouloir
toute
en faire mon métier.
Pendant 12 heures d'affilée, voilà. Déjà.
Non, mais donc c'est vrai que cette petite aventure associative a pris des proportions un peu énormes. Alors après, est-ce que ça durera un an, deux ans, trois ans ? Est-ce que ça marchera ? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que autant le journalisme, j'ai adoré. J'ai rencontré des gens géniaux. J'aimais ce côté créatif, tout ça. Autant là, je me suis jamais sentie autant à ma place que maintenant. L'intérêt n'est pas le même, l'exercice n'est pas le même, mais je sais que je suis à ma place, je sais que je suis juste et que je ne regretterai jamais d'avoir passé cette période, qu'elle évolue plus loin ou pas. C'est la seule certitude que j'ai et qui me réconforte dans mon envie d'aller plus loin.
Et j'ai envie de dire la même chose, vraiment. Pauline et moi, on est très différentes. On a un parcours différent, on a des goûts différents, mais on ressent la même chose toutes les deux. C'est que on se sent vraiment à notre place dans ce qu'on fait à tous les niveaux, que ce soit faire la vaisselle après un buffet ou faire toutes les démarches administratives. On est dans le feu de l'action tout le temps. Et vraiment, on s'est posé la question et on aimerait faire ça. On aimerait en faire notre profession. Et c'est plus que se salarier. Hein. C'est vraiment se dire un autre monde est possible, un monde où ou agir, c'est fait partie de la vie quotidienne, en fait. C'est-à-dire, c'est tout le principe de l'ESS, de l'économie solidaire, c'est qu'on peut construire des choses, on peut rendre des services, on peut créer des emplois, tout en pensant à l'intérêt général. Et on adorait avoir un lieu où on pourrait faire de l'insertion sociale pour nous, pour nos amis réfugiés qui viennent travailler avec nous. Et l'objectif, c'est ça. C'est de trouver un modèle économique qui nous permettrait de continuer, bien sûr, l'action qui serait au cœur de tout, mais de construire quelque chose de plus solide pour tout le monde et pour la société en général, en fait.
Pour finir cette interview, j'aimerais savoir toutes les deux si vous pourriez me citer une personne qui vous inspire, qui peut être dans votre entourage très proche ou bien quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé car c'est une célébrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré à agir ?
Tu dis pas Céline Dion ?
Ouais, Céline Dion, toutes les deux, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, si on monte notre entreprise, ce sera notre bande-son hein, dans les cuisines. Céline Dion.
Ouais. Ouais, fallait pas le dire.
Attends, je réfléchis.
C'est dur comme question parce que.
Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, je sens que mes potes vont se marrer, mais je crois que c'est ma mère, ouais.
Ouais, j'étais sûre que t'allais dire
toi
ça.
Toi aussi, elle t'inspire ou
La mère de Pauline.
Non, ouais, moi, je crois que vraiment, c'est une femme en dehors d'être ma mère qui a beaucoup de prestance, d'engagement, d'énergie, de naïveté aussi dans son engagement. C'est-à-dire qu'elle est. Voilà, elle voudrait que tout le monde aille bien, tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Mais elle a l'impression que ça peut être possible. Et je pense que c'est ça aussi qui me donne mon côté un peu idéaliste, un peu rêveuse. Et de se dire, comme disait Khadija, qu'un autre monde est possible, quoi. Donc, je dirais ma mère.
Moi, c'est dur. Je pense à Cédric Héroux comme ça parce que c'est logique. Et ce qu'il a fait, c'est dingue. Mais aussi...
Tu peux préciser qui c'est parce que je ne sais pas si tout le monde connaît son nom.
C'est un agriculteur qui est devenu un grand militant, si on peut dire, de la cause migrant parce qu'il a accueilli des réfugiés dans son domaine d'exploitation. Et il a été aussi... poursuivi pour délit de solidarité. Et aujourd'hui, il a créé Roya Emmaüs avec Emmaüs. C'est une espèce de grosse exploitation. Je crois que c'est bio, mais je ne suis pas sûre. Où il fait de l'inclusion et de l'insertion sociale avec des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et en gros, il construit quelque chose sur un modèle économique solidaire.
Et il a été débouté d'ailleurs. Hein.
Oui,
le
il a été.
Le jugement n'a rien donné. Ouais.
Et puis il prend position souvent. Mais après, j'ai envie de dire, tous les gens, tous les bénévoles en général, moi j'ai vraiment découvert que cette France-là existait en travaillant à la Fondation de France, que ce soit dans le domaine de l'aide aux migrants ou culturelle ou de l'éducation. Je pense qu'on ne se rend absolument pas compte du nombre de personnes qui agissent dans leur vie, à leur petit niveau. Et moi, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est de me dire qu'on n'est pas toute seule à faire ça et que ce qu'on fait, c'est commun, c'est banal. Et de plus en plus à Paris, tu te rends compte que chacun le dit peut-être pas, mais tout le monde, enfin je dis Paris, mais parce que j'habite à Paris, mais tout le monde agit en fait. Et tout le monde trouve ça normal. Et c'est ce qui me touche et c'est ce qui me motive. C'est de me dire qu'on est beaucoup à avoir envie que le monde change et on est beaucoup à y participer, que ce n'est pas un truc exceptionnel.
Excellente conclusion. Merci beaucoup les filles.
Merci à toi.
Merci.
Trop cool.
Trop cool, effectivement. Merci Esther, merci Pauline et Khadija pour cet entretien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Oui, absolument. Allez suivre l'association L'Assiette Migrante sur ses réseaux sociaux et si vous le pouvez, soutenez-la physiquement ou financièrement. Rendez-vous dans les notes du podcast pour retrouver tous les liens. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.